En effet, ce matin, nous allons étudier ce que nous venons de chanter en tant qu'Église. Nous étudions ce livre de l'Exode, certainement l'histoire la plus spectaculaire de l'Ancien Testament. Une histoire assez connue, hein, même à Toulouse, avec Claude Nougaro qui reprend le fameux chant de Louis Armstrong, qui a repris ce chant gospel. « Go down, Moses, laisse aller mon peuple ». Donc nous connaissons assez bien l'histoire, mais je rappelle que le peuple, à cette époque, au début de l'Exode, en fait, pour eux, 430 ans se sont écoulés depuis la dernière intervention, la dernière révélation de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc eux, ils ne connaissent pas encore des histoires comme celle-ci que nous étudions. Eux, ils n'avaient pas de Bible. 430 ans, ça fait beaucoup depuis la dernière fois que Dieu a fait quelque chose. Nous voici en 2022. C'était quelle année, il y a 430 ans? Je vous donne le temps de calculer. Moi, j'ai fait les calculs, mais il fallait que je sorte la calculette. Voilà, 1592. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1592? Voilà, je crois que j'ai lu, le Japon a envahi la Corée. Michel de Montaigne est décédé. Donc, si vous avez lu les essais de Montaigne, quelque chose qui s'est passé en 1492. Mais ça fait loin, est-ce que ça impacte vraiment notre vie aujourd'hui? C'est la question. Même pas cette année, mais cette décennie ou ces années-là, ça remonte loin. Et donc pour le peuple, c'est ça, ça fait 4 siècles qu'ils habitent en Égypte, entourés par une culture païenne, avec des dieux égyptiens, une mentalité égyptienne, sans révélation de Dieu. Ils savent qu'ils sont différents, ils ont quelques histoires qui sont transmises de père en fils, mais de toute évidence, ils ne connaissent pas vraiment leur Dieu. Je me demande si ce n'est pas notre problème aussi, à notre époque. Ça fait déjà 2000 ans depuis que Jésus est mort, ressuscité, que la Bible a été finalisée, écrite. Ou on pourrait dire que ça fait à peu près 400, 500 ans depuis ce grand retour vers Dieu qu'on appelle la réforme, où il y avait un souci de retrouver la vérité, de vivre la vérité, d'étudier la Bible dans tous les aspects de la vie. Mais il faut dire que la France a choisi plutôt de s'y opposer, d'exiler tout ce monde ailleurs. Et c'est vrai que depuis, nous vivons dans un climat où Dieu n'est pas vraiment présent, où Dieu n'est pas vraiment connu. Nous sommes aussi entourés par plein d'idées sur ce qu'est Dieu, sur la spiritualité, sur les divinités. Et c'est pour ça que ce livre est très utile pour nous aussi. Parce que le projet de ce livre, c'est justement de faire connaître Dieu, de faire connaître Dieu à son peuple et au monde entier. Un peuple qui ne connaît pas vraiment son Dieu. Ça fait tellement longtemps qu'il n'avait pas agi. Et donc, le livre d'Exode, c'est vraiment Dieu se présente au monde. Dieu se présente à son peuple, il se présente au monde. Déjà, il s'était présenté avec son nom. Hein, comment t'appelles-tu? Moïse a dit, mais tu m'envoies vers ce peuple, mais ils vont demander comment t'appelles-tu? Et Dieu a dit, ok, tu leur donneras mon nom. Je m'appelle, je suis. Je m'appelle l'Éternel, je m'appelle Yahweh. Vous avez appris le mot Adonai ce matin dans un des cantiques. Adonai qui veut dire Seigneur, Yahweh qui veut dire l'Éternel. Donc c'était son nom, je m'appelle, je suis. C'est déjà très parlant, ce Dieu éternel, ce Dieu qui existe, ce Dieu qui s'appelle je suis. Mais maintenant, dans la suite de l'histoire d'Exode, on va découvrir ce qu'il sait faire. C'est un peu comme dans cette émission, la France a un incroyable talent. D'abord, on se présente, on donne son nom, d'où on vient. Mais quelque part, tout le monde est là pour voir ce que l'on sait faire. Montre-nous ce que tu sais faire. Et le but de l'Exode, c'est de montrer que Dieu a un incroyable talent, bien plus qu'un magicien illusionniste. Il a un incroyable talent. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas lui qui se fait juger par les autres. C'est lui le juge. Et il a un incroyable talent de juger, justement. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, on va parcourir les 10 plaies, les fameux 10 plaies, qui se trouvent dans les chapitres 7 à 11. Je ne vais pas tout lire, ça fait des longs chapitres, c'est assez bien structuré. Une plaie s'enchaîne avec d'autres. Donc, je lis le début et quelques plaies au milieu et la fin, d'accord? Comme ça, on aura un peu l'ensemble des 10 plaies. Commençant en Exode chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que j'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Et on reprend. Donc après, il y a les premières plaies, notamment l'eau en sang. Et puis on reprend en chapitre 8, où c'est la deuxième plaie, les grenouilles. Lisons chapitre 8, versets 1 à 15, quelques plaies. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs. » Et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montaient et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Et il répondit, « Demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc, je vous ai lu les grenouilles et les poux, et après il y a encore trois, des mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, ça continue la grêle avec du feu, des sauterelles, des ténèbres, et enfin on va reprendre la lecture au dernier, la dernière, chapitre 11. À partir du verset 4, 11 verset 4, Moïse dit, « Ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. À travers ces 10 plaies, Dieu veut montrer que nul n'est semblable à lui. Il dit expressément à Pharaon, je vais multiplier ces signes, ces miracles, afin que vous sachiez que nul n'est semblable à moi. Que ce Dieu-là, le Dieu des Hébreux, le Dieu qui s'appelle Yahweh, qui bat toute la concurrence. Parce que bien sûr, il ne suffit pas juste de le dire, je suis le plus grand. Tout le monde peut le dire. Dieu peut le dire, le Dieu de la Bible peut le dire, Allah peut le dire, l'homme, moi-même, l'homme moderne peut le dire, c'est moi le plus grand. Mais maintenant, on va voir par les actions. Donc Dieu va faire exprès de multiplier des miracles. C'est le mot de conclusion, chapitre 11 même. Et il endurcit le cœur de Pharaon pour pouvoir multiplier ces dizaines de plaies, des miracles et des signes impressionnants pour montrer que nul n'est semblable à lui. Alors, on va essayer de se convaincre de ça encore ce matin, que nul n'est semblable à notre Dieu. D'abord en voyant ce qu'il a fait au pays, ensuite en voyant ce qu'il a fait au Pharaon, et enfin en voyant ce que Dieu fait aujourd'hui, ou plutôt ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui. Voyons en quoi Dieu est le plus grand et pourquoi nul n'est semblable à lui, et ce qui nous incite à lui faire confiance, à le suivre, à l'aimer. Donc tout d'abord, en voyant ce que Dieu a fait à ce pays d'Égypte, à travers les 10 plaies, comme je les ai présentés, les plaies sont regroupées par 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis une dixième. Donc déjà, elles sont regroupées par 3, surtout pour détacher la célèbre dernière avec la Pâque, qui va donner toute l'importance à la Pâque, que nous verrons dans une prochaine fois, mais le sang sur les linteaux et l'agneau pascal, cette plaie-là aura une signification très importante. Donc, on regroupe par 3 et ça détache la dernière, puisqu'il y en a 10. Mais aussi, on les regroupe par 3 pour montrer une certaine progression dans Dieu, qui déjà une certaine patience et une manière qui se prend lorsqu'il entre en jugement avec un peuple. Les 3 premières sont plutôt des, comment on appelle ça, des tirs de sommation. Vous savez, quand un avion d'une force militaire va arrêter un bateau fugue qui s'échappe, des fois, ils peuvent le détruire tout de suite, mais ils commencent par des tirs de sommation, des avertissements. Dieu se prend ainsi avec Pharaon. Donc, les premières plaies, c'est plutôt des avertissements. Il s'agit des désagréments. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est déjà désagréable de voir tout l'eau se transformer en sang et d'avoir du mal à trouver à boire. Les grenouilles, c'est pénible, ça. Ça ne met pas en danger la vie, mais c'est pénible d'avoir des grenouilles partout. Pareil que les poux. Mais après, et plus ça avance, les 3 suivantes commencent vraiment à toucher à la santé, toucher à la vie. Et c'est là, dans ce groupe de 3, on va commencer à voir la distinction entre le peuple de Dieu et Israël. Le peuple de Dieu va être épargné et les Égyptiens, non. Donc maintenant, c'est plus que des mouches, c'est des mouches venimeuses, où vraiment le bétail qui fait partie de la vie, qui soutient la vie, va mourir. Les ulcères, ça touche vraiment à la santé de chacun. Et puis, on arrive à la suite. Là commence la vraie dévastation et la destruction. Le grêle va ravager les moissons. Les sauterelles vont prendre tout ce qui reste. Les ténèbres, d'épaisses ténèbres, dit. Donc, il faut imaginer que la vie ne fonctionne plus lorsqu'on est dans d'épaisses ténèbres. Et ça commence si déjà ça n'avait pas touché l'état d'âme et l'intérieur, là, les ténèbres le font. Pour terminer avec l'extinction de la vie la plus chère, les premiers-nés, les aînés de chaque famille vont carrément mourir. Donc on voit une progression dans ces plaies où Dieu, il y a un avertissement et après il y a un durcissement pour arriver à un jugement sévère. Pour pouvoir affirmer, nous, que nul ne semblable à Dieu, on voit ses plaies, et quand on voit la nature de ses plaies, effectivement, nul n'est semblable à notre Dieu. Par ces 10 plaies, Dieu montre d'abord une maîtrise totale de la nature, de la création. Vous avez vu ça, hein, les animaux, les insectes, les fleuves, le climat, le soleil, tout est à sa disposition. C'était le Dieu créateur. Cet été, on avait étudié toute la beauté de la création, comment Dieu a créé toutes ces choses. Il a créé les fleuves, il a créé les animaux, il a créé les grenouilles, il a créé plein de choses pour nous aider à contempler sa beauté. Et là, ici, c'est plutôt l'inverse, c'est la décréation. C'est Dieu qui déchaîne, qui remet du chaos. Là, il y avait de l'ordre. Dieu, c'est le pays est en chaos. Au lieu de la lumière, il envoie des ténèbres. Au lieu de la vie, il envoie la mort. C'est tout le contraire de la création. C'est le jugement, c'est la décréation. Mais c'est sa création. Il maîtrise parfaitement la nature qu'il a créée. Or, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que j'ai surtout lu chapitre 8, ces deux plaies, déjà les grenouilles et les poux, c'est que les magiciens de Pharaon sont capables, jusqu'à un certain niveau, de reproduire des phénomènes semblables. Alors, est-ce que c'est par une vraie puissance spirituelle? Est-ce que c'est par l'artifice? Par quelque chose tel un charlatan? Il n'est pas dit, mais déjà en chapitre 7, même avant les 10 plaies, il y avait le bâton de Moïse qui se change en serpent. Et les bâtons des magiciens de Pharaon aussi se changent en serpent. Où là, ils sont capables de faire venir des grenouilles du fleuve. Ils sont capables même de produire des choses comme ça. Mais c'est jusqu'à un certain niveau. Ils sont vite dépassés quand ils se rendent compte, quand ils arrivent au pou. Verset 8-14, les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Donc l'auteur veut vraiment montrer qu'à un moment, ils ne peuvent pas jouer, ils peuvent pas tenir tête au Dieu d'Israël. Ils sont dépassés. Et encore, là où ils sont, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont capables de faire des choses, mais c'est pas pareil. Quand ils produisent des serpents, hein, tout ça, mais c'est le serpent de Moïse qui avale les autres. Ou ils sont capables de faire venir les grenouilles, mais ils sont pas capables de les faire enlever, ce qui est plus intéressant. Donc, ils peuvent contribuer au chaos, mais ils peuvent pas le défaire, ils peuvent pas l'enlever. Ça, il faut que Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chaque fois avec Pharaon, c'est important, il dit, fixe-moi le moment où on va enlever la plaie pour que tu saches que c'est moi. Donc, ce n'est pas juste, ah ben, de toute façon, d'ici demain, ça va partir comme le climat peut changer. Mais non, c'est fixe-moi le moment où on va agir. Tout ça pour montrer que oui, c'est vrai que d'autres croyances, d'autres spiritualités peuvent apporter à une petite échelle, des fois, des expériences surnaturelles, peut-être des phénomènes qui nous frappent, des imitations qui peuvent nous séduire. Et Pharaon se laisse convaincre par ce que ces magiciens sont capables de faire. Et effectivement, d'autres spiritualités, d'autres religions peuvent agir dans certaines choses, mais à un moment, ils sont dépassés par le vrai Dieu de la Bible. Elle n'apporte pas la vraie vie, la vraie liberté. Donc, ce n'est que Dieu qui a une maîtrise totale de la nature, du monde et de nos vies. Mais ça va plus loin dans ce que Dieu fait à ce pays. Par ses plaies, Dieu montre aussi qu'il maîtrise, qu'il domine les dieux égyptiens. C'est ça aussi le but de ses plaies, de montrer qu'il est plus grand que les dieux d'Égypte. Lors de la dernière plaie, c'est dans le chapitre 12, on n'a pas encore lu, mais en chapitre 12, Dieu dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. C'était ça le but, d'exercer les jugements contre les dieux de l'Égypte. Et quand on revoit les plaies, effectivement, chaque plaie, d'une manière ou d'une autre, touche à des domaines que les dieux d'Égypte étaient censés maîtriser et protéger. Où chaque plaie touche à des choses que les Égyptiens pouvaient vénérer comme des dieux, comme des divinités. Donc il y avait le Nil, ce grand fleuve d'Égypte, mais oui, c'était en quelque sorte une divinité. Mais là, certaines plaies montrent que voilà, le Nil est dominé par Dieu, donc l'eau en sang ou les grenouilles qui sortent du Nil. Il y avait les Égyptiens, vous savez, il y avait le dieu du soleil, ils adoraient ça, mais là, et Pharaon lui-même se croyait en quelque sorte le dieu du soleil. Et là, c'est des ténèbres, par exemple. il y avait dans beaucoup de cultures, on se tourne vers certains dieux, certaines divinités pour protéger la moisson, la récolte, la fertilité, la fécondité. Et là, c'est plus le cas. Ces dieux-là ne peuvent pas agir. Donc Dieu montre qu'il les juge et qu'il les bat tous. Et ce qu'il faut retenir pour nous, tout ça est très important. Tout ça sera très utile au peuple de Dieu. Les premiers lecteurs de ces textes, c'est la génération d'après, c'est quelques générations appelées. Ils vont hériter ces histoires, ils vont pouvoir les connaître et les chanter. Ça revient souvent dans les psaumes, la sortie d'Égypte. Et ils vont pouvoir raconter ces miracles et les connaître. Ils ont besoin de savoir, lorsque eux, ils entrent dans le pays de Canaan, où ça va être un peu la même situation. Comme le peuple est en Égypte entouré par plein d'idées de spiritualité diverses et variées des divinités, mais que Dieu est plus grand que tous, le peuple, par la suite, va devoir vivre bien du temps en pays de Canaan, entouré par toutes sortes d'autres croyances et de divinités et d'idoles. Et ils ont besoin de savoir que nul n'est semblable à notre Dieu. Et nous avons besoin de savoir ça aussi. Nous vivons entourés par toutes sortes d'idées, mais nous avons besoin de savoir que nul n'est semblable à notre Dieu. Et c'est grâce à ces histoires qu'on peut le faire. Aujourd'hui encore, on est tenté de vénérer ou de craindre le climat, l'énergie, tout ce dont on parle de nos jours. Et le chrétien fait bien de se rappeler que Dieu maîtrise tout cela. Dieu prend soin de son peuple. Donc déjà, on est convaincu que Dieu est le plus grand, que nul n'est semblable à lui en voyant ce qu'il a fait au pays. Après, aussi en voyant ce qu'il a fait au Pharaon. C'est mon deuxième point. Parce que c'est ce personnage de Pharaon qui est très présent dans ces chapitres, ce duel entre Pharaon et Moïse, mais encore plus entre Pharaon et Dieu, et le Dieu de Moïse, le Dieu des Hébreux. Et la grande lutte dans ces chapitres se livre dans le cœur de Pharaon. Qui est le plus grand? Est-ce que ça va être moi ou est-ce que ça va être Yahweh? Est-ce que ça va être le Dieu de la Bible? Alors, il faut savoir que Pharaon, c'est l'homme le plus puissant sur la Terre à ce moment. C'est vrai qu'il est roi d'une civilisation très avancée, à la pointe de la technologie. Je rappelle, il a fallu 4000 ans encore pour enfin l'homme construise quelque chose de plus haut que les pyramides. Donc les Égyptiens, ils étaient très forts, très doués. Et Pharaon est la tête de cet empire, de ce peuple. Donc on comprend qu'il se prend pour Dieu. Mais il fallait pas qu'il se prenne pour Dieu. Alors j'aimerais prendre quelques instants avec vous. Et nous pouvons faire le profil psychologique de cet homme. Parce qu'il faut dire qu'il est grave, hein? Il est grave. D'abord, il est têtu. Est-ce qu'il y en a des têtus dans la salle? Il est têtu, hein? Il refuse, c'est 10 fois, il refuse le refrain qu'il aurait, il refuse de laisser aller son peuple. Donc, il refuse, il refuse, il refuse. Donc, des fois, on peut être fier d'être têtu, mais ici, non, il est têtu et ce n'est pas une bonne chose. Il est orgueilleux. Et ça se voit d'ailleurs, il n'a pas l'humilité d'écouter ses serviteurs, souvent qui sont plutôt de bon conseil, son entourage qui commence à lui dire, là, mon gars, non, c'est le droit de Dieu. Là, reconnais, là, on n'est plus au même niveau. Plus tard, ses serviteurs vont lui dire, mais arrête, arrête, parce que là, tu es en train de détruire notre pays. Laisse-les aller. Récemment, dans un culte de famille, nous avons étudié ce Naaman qui était un peu. Il était chef, il était le grand général de son pays. Lui aussi pouvait se croire riche et doué et capable et fort. Mais il avait l'humilité d'écouter sa petite servante qui dit va chercher en Israël le salut et le secours. Et même là, il était se baigner dans le Jordan, c'était un peu humiliant pour lui, mais il avait l'humilité de le faire. Donc, on peut être chef et grand et puissant, et à un moment reconnaître avec un peu d'humilité que voilà, cette fois-ci, il faut que je plie le genou. Mais Pharaon refuse de faire. Donc, il est têtu, il est orgueilleux, il est manipulateur. Il dit oui, je vous laisse partir. Et puis le lendemain, il revient sur son choix. Des fois, il est même. Oh, j'ai péché, il a des élans des élans d'un faux repentir. Oh, j'ai péché, je comprends. Donc, la plaie se relâche. Et puis, il reprend. À plusieurs reprises, il dit j'ai péché. Donc, une certaine. Mais tout ça pour, voilà, pour manipuler. Il veut négocier avec Dieu, hein, il veut toujours garder le dernier mot, je trouve ça intéressant aussi. Hein. Moïse dit, demande, quand est-ce que, d'accord, les grenouilles, quand est-ce que, tu me fixes le moment où on enlève les grenouilles. Et Pharaon dit, demain, déjà, pourquoi attendre 24 heures pour enlever les grenouilles? Avec un peu d'humilité, il aurait dit, s'il te plaît, maintenant. Mais non, demain, peut-être en disant, d'ici demain, j'aurai peut-être je vais peut-être pouvoir dire que c'est grâce à moi ou quelque chose va arriver que comme ça c'est on peut pas attribuer ça à Dieu. Donc toujours il veut garder le contrôle, vous voyez. Un autre moment on n'a pas lu, mais il dit ok, vous pouvez partir, mais que 3 jours de marche. Et Moïse dit non, on part et on part. Un autre moment il dit ok, vous pouvez partir, mais que les hommes. Moïse dit non, on part tous, tout le peuple, les grands, les petits, les enfants, tout. Donc vous voyez ce têtu, orgueilleux, manipulateur, il veut négocier, des façades. On lui envoie une session de counseling biblique. On comprend que Moïse sort dans une ardente colère, quoi. Et à un moment, il est sans espoir. Ça, c'est Pharaon. Mais le texte nous invite peut-être à nous interroger. Pouvons-nous nous retrouver en lui, dans ses qualités? Parce qu'au fond, il incarne cet esprit moderne qui dit « Je suis maître de mon destin, je suis libre, je suis autonome, je fais ce que je veux. J'aurai moi le dernier mot. Je ne vais pas fléchir de genoux devant un inconnu, devant ce Yahweh inconnu. » Ça, c'est Pharaon. Mais voici le comble qui peut nous faire trembler. C'est que ce Pharaon, finalement, au lieu de faire ce qu'il veut, il pense tout au long de ce parcours qu'il fait ce qu'il veut. Je ne laisse pas aller de mon peuple, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est moi qui domine. Pendant tout ça, on apprend qu'il fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que Dieu veut multiplier ses miracles dans ce pays et se montrer le plus grand Dieu. Et donc, Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Le comportement de Pharaon ici, ce comportement qu'il rejette, qu'il refuse, est dirigé par Dieu. La section que nous avons lue ouvre et ferme avec ce même constat. Chapitre 7, verset 3. À l'avance, Dieu dit, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne vous écoute pas. C'est ce qui s'est produit et Dieu résume la chose. Chapitre 11, verset 9. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Même son refus, même son rejet, même son cœur endurci, elles sont l'œuvre de Dieu. Et si Dieu fait ça avec l'homme le plus puissant du monde, ça fait réfléchir. De nos jours, les gens peuvent être fiers même de ne pas être dupes, pas des croyants, des moutons formatés, comme disait notre frère Philippe. Moi, je ne suis pas un mouton formaté. Moi. Je réfléchis. Je n'ai pas besoin de béquille de la foi. Donc, ils sont fiers de ça. Mais qui dit que ce n'est pas Dieu qui endurcit ton cœur? Vous voyez, ces raisons de plus de dire que nul n'est semblable à Dieu, c'est qu'il peut fléchir nos cœurs. C'est inquiétant si je suis orgueilleux. Mais c'est rassurant si je suis humble. C'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui fait peur. Dieu a un incroyable talent dans nos cœurs. Il peut les endurcir comme il l'a fait pour Pharaon, mais il peut aussi les endurcir. Et ça, c'est un incroyable talent aussi. Et ce Pharaon, il nous encourage. C'est un avertissement, mais il nous encourage à faire cette prière à Dieu. Dieu, ouvre mon cœur, ne me laisse pas à moi-même comme ça. Et si vous êtes prêt à prier dans ce sens ce matin, Seigneur, ouvre mon cœur, attendrez mon cœur, eh bien, c'est déjà bon signe qu'il agit avec grâce dans votre cœur. Et là, vous pouvez célébrer encore une fois que nul n'est semblable à Dieu qui peut tourner nos cœurs vers lui. Et ne nous livre pas, et il ne nous livre pas à notre esprit têtu, notre esprit orgueilleux, notre esprit manipulateur. Comme Pharaon. Donc vous voyez, oui, vraiment, ce texte montre que Dieu, nul n'est semblable à Dieu, il peut incliner le cœur d'un roi, un roi tel Pharaon, là où il veut, pour se glorifier. Et j'aimerais terminer aussi en pouvant dire, nul n'est semblable à notre Dieu, en voyant ce que Dieu fait aujourd'hui, ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui. Quand on lit ces 10 plaies, et puis quand on lit la suite de la Bible, on apprend que ces 10 plaies deviennent un exemple type du jugement de Dieu, et notamment un type du grand jugement de la fin des temps. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ce livre de l'Apocalypse reprend beaucoup le langage, les mots de l'Exode, notamment les plaies qui s'abattent, cette fois-ci pas juste sur un pays, mais sur un monde. Donc on va retrouver l'eau en sang, on va retrouver les sauterelles, mais là, bien pire, hein, presque un aspect de démon. L'eau en sang, les sauterelles, la grêle, les ténèbres, tout ça, on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. On parle d'une ambiance apocalyptique, c'est ça. Aussi, on retrouve cet endurcissement, cet égarement suite parfois à des prodiges qui viennent des sources néfastes, des magiciens comme ceux de Pharaon. Dieu dit, on va retrouver des signes, des prodiges qui peuvent endurcir les gens contre Dieu. Il y a ce verset qui dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tout ça parce qu'ils refusent. Donc vous voyez, le jugement final va une fois pour toutes établir que nul n'est semblable à notre Dieu, que Dieu est le plus grand. Et c'est l'invitation à être prêt. Mais ce qui est encore plus convaincant, je dirais, et nous permet de dire ce matin que vraiment nul n'est semblable à notre Dieu, c'est quand on voit ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne nous frappe pas des plaies. Aujourd'hui, il patiente. Aujourd'hui, il manifeste son amour. Aujourd'hui, il nous envoie, pas Moïse, mais il nous envoie Jésus. Et dans la vie de Jésus, on retrouve justement l'Exode. On retrouve l'histoire de l'Exode. Cette histoire où Dieu veut nous délivrer du mal. Il veut délivrer le monde du mal. Sauf que dans l'histoire de Jésus, Dieu n'a pas envoyé les plaies et les jugements contre ses ennemis. Il a envoyé les plaies et les jugements contre son fils bien-aimé. Oui, à la croix, Jésus a subi, lui, cette décréation, ce chaos, ces ténèbres. À la croix, Dieu fait mourir son fils premier-né, son fils unique, pour épargner ses ennemis. C'est ça l'histoire la plus spectaculaire de toutes. Et même on apprend, l'apôtre Paul fait un commentaire sur les raisons qui ont conduit Jésus en croix. Il dit oui, le peuple juif, mon peuple, et il s'en attriste, il en est navré. Mon peuple juif avait le cœur endurci pour rejeter et crucifier leur Messie. Oui, ils étaient têtus, oui, ils étaient orgueilleux. Oui, ils ont manipulé toutes choses jusqu'à la fin pour mettre Jésus en croix. Mais l'apôtre Paul explique que tout ça, c'était comme Pharaon. C'était comme le cœur endurci de Pharaon. C'était en vue d'une victoire plus éclatante. C'était en vue d'un projet missionnaire mondial qui nous touche même aujourd'hui. Et là, oui, ça, c'est l'histoire la plus spectaculaire de toutes. Dieu qui envoie son propre fils pour nous faire vivre la vraie exode, pour mourir pour nos cœurs têtus, orgueilleux, manipulateurs, et pour les transformer, nous en donner des nouveaux cœurs. Alors pouvons-nous dire chacun ce matin que nul ne semble à notre Dieu? Si vous êtes quelqu'un de têtu, Dieu vous donne mieux que 10 miracles. Il vous donne le miracle par excellence de la résurrection, Jésus qui meurt, qui ressuscite. Comment rester têtu à un tel signe? Si vous êtes orgueilleux, Dieu s'humilie lui-même et vous donne Jésus doux et humble de cœur, qui est patient avec vous. Si vous êtes manipulateur, vous avez du mal à vivre la vérité, Dieu vous donne sa parole qui est toujours vraie, sur laquelle on peut baser notre vie. C'est merveilleux. Que le cœur de Pharaon nous mette en garde, mais aussi nous rassure que Dieu, aujourd'hui encore, il nous aime, il nous invite. Un des grands messages du Nouveau Testament, c'est aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais croyez dans l'amour et la bonté de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça serait le plus grand signe, le plus grand miracle que vous pouvez à votre tour vivre.